Amoureux des livres, bonjour. Dans le cadre de nos échanges avec l'association Les Amis du Tapuscrit, Aréopage vous propose aujourd'hui de rencontrer deux auteurs qui parlent d'autres possibles. Autre possible écologique avec Sonia Song pour son livre L'archipel des transitions et autre possible politique avec François Millet pour son journal d'un anarchiste désabusé. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Bonjour François.
Bonjour.
François, c'est pas la première fois que vous venez sur l'antenne des FM+.
Oui.
Nos auditeurs ont eu le plaisir de vous découvrir il y a quelques mois au micro de Guylaine, qui vous avait reçu pour parler de votre maison d'édition et de la librairie Tapuscrit. Aujourd'hui, c'est pas l'éditeur, c'est pas le libraire que je reçois, mais c'est bien l'auteur. Alors, qui est l'auteur François Millet ? Vous venez du monde du numérique, analyste programmateur, à l'origine du site web Logitech, et c'est par passion que vous passez dans le monde du papier en créant votre maison d'édition en 2014. Vous vous définissez comme agnostique, anarchiste désabusé et vous considérez la vie comme une farce. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le mot de la fin, qui est un recueil de nouvelles. Mais si nous vous rencontrons aujourd'hui, c'est pour ce journal d'un anarchiste qui se dit désabusé, mais que j'ai trouvé quand même bien constructif et qui, à travers une analyse politique et économique du monde d'aujourd'hui, propose des solutions alternatives pour donner un nouveau souffle à notre monde. Est-ce que j'ai bien résumé le personnage ?
C'est tout simplement parfait.
Merci François. Sonia. Sonia, c'est difficile de vous présenter parce que la biographie s'intitule « Séance d'autobiographie annulée pour cause d'urgence climatique ». Ça veut tout dire quand même. Hein ? Sans se prêter au jeu de l'ego, on peut juste dire sans trop vous dévoiler que vous vous définissez comme une assembleuse de possibles. Vous êtes chargé d'études énergie-climat et du rapport de développement durable de Montpellier Méditerranée Métropole. Et vous êtes donc en première ligne pour observer la montée de tous ces enjeux climatiques. En 2000, vous avez coécrit Le sourire de Gaïa, qui est un spectacle théâtral et qui propose une vision raisonnable de la sortie de crise climatique. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées. Et vous continuez donc ce combat à travers un nouvel ouvrage, L'archipel des, L'archipel des transitions, livre qui est né d'un désir fou, d'un rêve d'un autre monde, un monde meilleur. Et c'est pour ce livre que nous vous recevons aujourd'hui.
Merci.
Donc je voudrais, avant de présenter plus complètement vos livres, un petit peu savoir, et l'un et l'autre, comment vous êtes venus à écrire ? Quel est votre rapport à l'écriture ? Est-ce que c'est un besoin depuis l'enfance, tous les jours, de temps en temps, selon les humeurs ? Sonia ?
Depuis l'enfance. J'écrivais beaucoup de poésie, jusqu'au jour où mon professeur de français a tenu à nous faire rencontrer. Nous étions deux dans la classe à être fervents de poésie. Et elle nous a fait rencontrer Pierre de Givenchy, à l'époque, qui était à Orléans et qui éditait des jeunes auteurs.
Le Couturier ?
Non,
ah,
non.
C'est qui Pierre de Givenchy ?
C'est un homonyme.
D'accord. Hein,
parce que... Et donc, il nous a édité dans des recueils collectifs, en fait, de jeunes poètes, écrivains en tout genre. Et c'est ainsi que j'ai pris confiance un petit peu. Et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre après. Donc, je me suis plutôt immergée dans l'écriture théâtrale. Et j'ai travaillé avec des gens de la rue où nous avons coécrit des textes. C'était plutôt une aventure sociale et humaine très intéressante.
C'était précurseur du film qui vient de sortir et qui est écrit aussi avec des filles de la rue, qui vient de sortir avec Audrey Lamy.
C'était en tout cas une évidence à l'époque. Et puis voilà, et puis je continue toujours un peu à écrire et depuis quelques temps de plus en plus.
Et toujours des écrits engagés ou des écrits plus romanesques ?
Engagé.
Toujours engagé. Bien. François, c'est quoi votre parcours ?
J'écris à peu près depuis l'âge de 18 ans. Alors au départ, surtout sur du texte court, des nouvelles, des petites histoires. Et mes écrits politiques, par contre, datent il y a une quinzaine d'années, où j'ai amorcé une réflexion politique. Et ce qui m'a amené à écrire et à réfléchir sur tout un tas de sujets.
Cet engagement politique, vous ne l'aviez pas à 18 ans ? C'est quelque chose qui est venu avec le temps ?
Non, c'est venu il y a 14 ans à peu près.
D'accord. Voilà. Et l'écriture avant, donc, c'était des romans, des poésies, des nouvelles ?
Des nouvelles uniquement, du texte court, des petites histoires.
Et édité à l'époque, non ?
Non.
Dans des cahiers ?
Dans des cahiers, manuscrits.
Manuscrits.
Oui.
Les livres qu'on propose aujourd'hui, ce sont tous les deux des livres d'engagement. C'est ce qui m'a frappé. D'ailleurs, c'est ce qui vous réunit pour le café littéraire qui aura lieu à Tapuscrit en fin de semaine. Engagement politique pour François, engagement écologique, mais est-ce que l'engagement économique, écologique, c'est pas aussi un engagement politique ?
Je préfère citoyen pour rester neutre, pour rester dans l'ouverture. Mais effectivement, on touche au fondement de l'organisation des sociétés, on touche à la façon dont les gens s'emparent ou ne s'emparent pas des sujets, donc effectivement, c'est tout de même un sujet très politique.
Dans le livre de François, le préambule, je voulais le citer parce que vous citez une phrase d'Albert Jacquard, je me permets de la lire. « L'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. La conséquence est qu'on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. » Donc Jacquard, c'est un de vous mettre à penser, vous en avez d'autres ? Des gens qui vous ont comme ça très... pas forcément intellectuels, penseurs, politiques, tout, écrivains.
Alors Jacquard, c'est une phrase que j'ai lue un jour et qui m'a particulièrement frappé et que j'ai reprise à mon compte. Après, dans mon livre, je parle d'auteurs de science-fiction parce que eux m'ont beaucoup inspiré. Parce que ils ont cette capacité à pouvoir imaginer des mondes sans aucune contrainte par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et souvent, ils ont une vision politique, c'est-à-dire qu'ils font passer un message dans les mondes qu'ils imaginent.
Qu'est-ce que vous dites sur le meilleur des mondes, notamment ?
Je parle plutôt d'Isaac Asimov, ouais. Et de Van Vogt. Qui sont des précurseurs pour moi.
Qui ont des visions déjà de ce qui allait arriver ?
Oui, bien sûr. Oui. Van Vogt, c'est le cas dans certains de ses romans, où il décrit un monde qui est anarchiste. Hein, et c'était pas une lubie de sa part, hein, puisque dans certaines rééditions, il y a des postfaces où il s'exprime, où il explique que cette vision politique, elle est volontaire, hein, et qu'il a voulu explorer cette voie dans son roman de science-fiction.
Et vous, Sonia, il y a des grands personnages qui vous ont, des grands combattants écolos
Beaucoup, mais Albert Jacquard, justement, ouais. Quand il parle, voici le temps du monde fini, quand il parle de la finitude de la planète, on parle d'empreinte écologique, on parle donc de la biocapacité des écosystèmes à pouvoir produire des ressources pour l'humanité. Et quand il annonce qu'elles sont largement dépassées, quand il parle de migration... et qu'il parle de phénomènes qu'on ne pourra pas arrêter, on pense immédiatement aux réfugiés climatiques et pour l'instant aux peu de mesures qui permettraient de gérer décemment cette situation, humainement et dignement aussi. Donc effectivement, Albert Jacquard et puis Hermann Hesse, beaucoup aussi pour ses romans philosophiques, sa pensée inspirée d'orientalisme et de philosophie parfois mystique. Et puis peut-être Comte Sponville aussi pour le petit traité des grandes vertus où j'ai été rassurée de voir à un moment donné le retour des penseurs dans ce monde frappé de matérialisme
en ce moment oui c'est
voilà. Donc effectivement on a besoin de penseurs, on a besoin de philosophes, on a besoin de gens qui posent des grandes questions sur
cette conscience écologique. Elle est venue il n'y a pas longtemps.
Toujours été là. Je pense que c'est un héritage culturel familial. Une grand-mère particulièrement proche de la nature et qui, chaque fois qu'on lui rendait visite, nous initiait à toutes sortes de connaissances, de fleurs, d'oiseaux, etc. Et effectivement, une famille aussi très très proche de la nature. Donc je pense que ça vient de là, surtout.
Oui, je voulais revenir sur ce que vient de dire Sonia à propos de Hermann Hesse, avec un de ses romans phares qui est Le jeu des perles vertes, qui est une utopie qui est magnifique. Mmh. Et voilà, c'est tout. Je voulais rien dire de plus.
Il faut un peu d'utopie hein, dans ce monde, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans la dystopie et dans le noir et dans le pas beaucoup de futur. S'il n'y a pas un peu d'utopie et politique, écolo et... écolo, j'aime pas trop dire, parce que c'est un côté...
connoté. Voilà. Mais on reproduit beaucoup et c'est vrai qu'on a du mal à, comme disait tout à l'heure très justement Alain, on a du mal à François, on a du mal à se projeter vers vraiment une vision nouvelle. Et c'est un petit peu le propos du livre.
Mm-hmm. Pourquoi on a du mal ? Parce qu'on ne veut pas voir ? On sort
que c'est assez complexe, cette question de... Il y a tout un tas de mécanismes de défense, déjà, parce que ce sont des catastrophes que nous voyons, auxquelles nous sommes confrontés,
maintenant.
On le sait, et qui sont quand même assez effrayantes. Pour justement le citoyen lambda, on vit tous dans une forme de confort et de conformisme quelque part à ce modèle mondialisé, et que effectivement il nous est parfois difficile de prendre un peu d'oxygène, sortir la tête hors de l'eau et puis pouvoir imaginer ce que pourrait être un monde différent, tout simplement refondé au sein des limites du vivant.
Mais c'est vrai que c'est difficile aussi, parce qu'en ce moment, ce qu'on oppose beaucoup aux écologistes, c'est que, par exemple, on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes, où en définitive, on se rapproche de ce que vous dites, François, c'est-à-dire qu'il faudrait presque que tout le monde ait un revenu universel, parce que tant que les gens auront faim, la cause écolo, ça sera toujours moins important que comment je vais nourrir ma famille le soir. Donc là aussi, vos deux livres se rejoignent. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, Sonia, que... pour moi, l'écologie était politique. C'est pas du tout méprisant. C'était au contraire que je pense que, oui, c'est un choix politique. C'est même le premier choix politique qu'on devrait tous avoir. Qui n'est pas primordial en ce moment pour tout le monde. La politique, on pense d'abord aux petits arrangements.
C'est pour ça que le concept de développement durable qui a été tant critiqué, parce que chacun veut faire reconnaître sa posture et la décroissance, etc. Peu importe. Moi, je crois qu'il ne faut pas bloquer sur les mots. Je pense que les enjeux sociaux sont aussi importants que les enjeux écologiques et les enjeux économiques. Il faut vraiment penser systémique, penser holistique, pour avoir cette vision d'ensemble de l'écosystème humain dans une société qui retrouverait vraiment sa place parmi les espèces, finalement.
Les enjeux sociaux, c'est ce qui est central dans votre livre, François, justement. Les enjeux sociaux à travers le revenu unique, non, c'est le revenu...
Universel.
Universel, voilà.
C'est une idée que j'ai découverte il y a quelques années et je me suis dit, mais ô combien elle est magnifique et ô combien elle permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui, et ô combien aussi elle permettrait de dépasser les affrontements idéologiques que l'on a aujourd'hui. Parce que bien souvent on nous oppose le travail,
Les loisirs, c'est ça, non?
Non, mais on nous oppose le travail...
Comme valeur.
On nous donne aujourd'hui le travail comme valeur pour continuer sur cette mauvaise lancée dans laquelle nous sommes. Et je me suis dit, mais vraiment, le revenu universel permet vraiment de résoudre beaucoup de problèmes. Une usine va fermer aujourd'hui, elle a beau polluer, elle a beau avoir les pires pratiques, mais il suffit qu'elle y ait quelques centaines d'emplois, eh bien, pour que tout le monde s'arc-boute, pour éviter la fermeture, alors qu'il faudrait vraiment que cette usine, elle ferme. Mais le revenu universel permettrait d'éviter ce genre de posture et d'affrontement qu'il y a.
Et vous pensez quand même, l'un et l'autre, que on va prendre conscience de ça, qu'il y a un moment où, qu'est-ce qui pourrait faire que l'homme comprenne que c'est fini, que c'est pas... parce que bon, il y a encore même 10 ans, on disait qu'on avait le temps, en 2050, là on voit que l'échéance se rapproche dangereusement.
Moi je pense qu'on est déjà entré dans une forme de transition, depuis plus de 20 ans, que des précurseurs ont ouvert un certain nombre de voies et apporté un certain nombre de réponses aux crises sociales et écologiques d'ailleurs, souvent en ne les opposant pas, et bien en ayant une approche autour des besoins de l'être humain. Parce que finalement, ce que la société qu'on pourrait imaginer pose comme question, c'est où sont nos besoins essentiels, et non pas en les réservant exclusivement à une caste ou une catégorie, mais bien en réfléchissant un accès aux ressources et un accès finalement à une vie digne et décente pour tous. Et ça, c'est assez révolutionnaire comme point de vue, mais c'est un point de vue qui est en train de grandir, qui est en train de s'accroître. On le voit avec le mouvement des enfants, qui ont repris possession de leur destin. Effectivement, moi j'ai plutôt vraiment confiance.
Vous sentez qu'il y a un écho ?
Il y a un écho, et même des choses très très concrètes qui se produisent. C'est-à-dire que l'on cite je sais pas, j'aime bien citer Isabelle Delannoy qui a écrit l'économie symbiotique parce que c'est un des modèles dont je m'inspire. C'est un modèle parfaitement réfléchi. Elle a fait le tour des initiatives planétaires de transition et on voit combien les projets se multiplient de jour en jour, d'année en année. Et je pense qu'on approche de quelque chose de l'ordre du basculement. Et c'est un peu le propos de mon livre. C'est vraiment de comprendre comment, quels facteurs vont permettre que ce basculement puisse se produire. Va-t-il se produire visiblement ou alors va-t-il se produire comme une lente révolution douce? Je préfère pas apporter de réponse parce que je pense que, enfin moi, le parti pris que j'ai pris, c'est vraiment de poser des questions. Et puis les
réveiller
réponses.
Réveiller un peu les consciences, modestement, mais bon, un peu quand même.
De partager, partager. Ce que mon travail, en fait.
Ben, on continue juste après la page musicale que nous a choisi François. François nous a choisi aujourd'hui l'Adagio Barber. On va un peu le sacrifier au niveau du temps, parce qu'il fait presque 10 minutes. Donc on va écouter les premières minutes de ce magnifique adagio que j'ai vu. C'était la musique de Elephant Man, je n'avais pas vu comme ça. J'ai découvert ça en cherchant la documentation. Très très beau film de David Lynch. Nous sommes toujours sur FM+, avec Sonia Song pour son livre « L'archipel des transitions » et avec François Millet pour le journal d'un anarchiste désabusé. Concrètement, Sonia, qu'est-ce qui va nous aider? Quelles vont être les innovations qui vont naître, qui sont peut-être déjà en devenir pour nous aider?
Alors justement, déjà, effectivement, c'est un changement de regard. Léger. Au début, on peut commencer, et beaucoup de gens ont déjà commencé à changer un aspect de leur mode de vie. Donc c'est vraiment de l'empowerment au sens citoyen du terme. C'est bien sûr les évolutions politiques que nous allons vivre au niveau national mais international aussi. Je pense qu'on va vers une organisation mondiale de l'environnement. Sur les sujets communs, en tout cas, les États vont certainement garder un certain nombre de choix internes, mais sur ces sujets-là, c'est le droit à l'environnement et la reconnaissance des écosystèmes comme des organismes vivants ayant les mêmes droits que nous. C'est tout ce travail autour de l'écocide, donc de la reconnaissance de ce crime, en fait, finalement, contre la vie. Même si le mot est un peu fort et qu'il faut se méfier des mots un peu forts. C'est surtout les organisations citoyennes, multi-acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, dans les dynamiques de transition, c'est ce que les institutions essaient déjà de mener. On a affaire à des archipels, à des lieux, à des Islandes, à des endroits où les gens, tout le monde peut venir. Et c'est ce qui fait la richesse de ces dynamiques, c'est qu'on peut avoir un chef d'entreprise, on peut avoir un scientifique, on peut avoir un citoyen lambda qui mène telle activité, on peut avoir un homme politique, on peut avoir un jeune, on peut avoir une personne plus âgée. Et l'idée, c'est de faire fonctionner l'intelligence collective. Pour répondre à quoi ? Pour répondre déjà à l'adaptation au changement climatique, puisqu'on connaît les scénarios de réchauffement, on devrait davantage parler de réchauffement climatique, pour ne pas parler de dérèglement climatique, parce que là, on est un peu catastrophiste, et je pense qu'il faut bien penser que la résilience existe et qu'on a encore une fenêtre temporelle qui nous permet d'agir maintenant, dès maintenant par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps, pour mettre en place le rafraîchissement naturel dans les villes. Donc c'est vrai qu'on va certainement avoir des villes, comme ça commence en Inde, en Chine et dans d'autres endroits, qui seront des cités-jardins ou des villes-forêts. C'est-à-dire qu'ils répondront aux besoins de rafraîchissement urbain, non pas uniquement de manière mécanique, par des machines qui consomment beaucoup et produisent du coup beaucoup d'énergie, enfin consomment beaucoup d'énergie et produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on va assister certainement à un verdissement des villes pour non seulement répondre à l'adaptation au changement climatique, mais aussi réinviter les espèces, la biodiversité. Et là, on est dans un changement de paradigme. On est vraiment dans quelque chose que j'appelle, qui pourrait être la symbiose universelle. C'est-à-dire que la reconnexion à la nature peut nous conduire aussi. Et là, c'est sans doute de l'ordre de l'utopie. Et c'est sans doute aussi parce qu'il faut se raconter des histoires pour qu'elles puissent éventuellement intégrer la réalité d'une manière même moins importante. Et c'est un peu pour ça que je me suis amusée à raconter ce concept de symbiose universelle. Mais en tout cas, toute l'humanité, partout sur Terre aujourd'hui, a conscience qu'elle est au pied du mur, a conscience que les effets sont déjà bien visibles et que les solutions existent toutes dans tous les domaines. Il est donc bien important d'accompagner le changement des mentalités aussi par l'information, comme vous le faites aujourd'hui avec cette émission de radio. Les médias ont un grand rôle à jouer dans l'éducation populaire au changement climatique. Il faut un mouvement d'éducation populaire au changement climatique, vraiment.
Surtout face quand même aussi à quelques grosses puissances. Enfin, je pense au gouvernement Trump, par exemple, qui est quand même très réfractaire à ça.
Oui, alors il est un peu isolé dans sa posture, on l'a vu, et c'est grand heureusement. On a vu aussi que du coup, les États d'Amérique s'étaient opposés massivement et avaient pris des décisions encore plus fortes.
États à l'intérieur.
À l'intérieur des États-Unis.
Oui, la Californie,
etc. Oui. Mais ils sont bien plus nombreux encore, on ne peut pas tous les énumérer, ont pris la décision du coup d'accélérer leur transition, de prendre des mesures beaucoup plus fortes de baisse carbone, etc. Donc parfois, il a finalement induit des effets contraires. Qu'il entendait faire.
François, dans le livre, vous ne parlez pas beaucoup d'écologie.
Alors ? Et pourquoi donc ?
C'est vrai. Je me suis rendu compte après, mais en fait, il y a une raison. En fait, c'est que le revenu universel est éminemment écologiste. Si on prend tous les domaines de la société, à travers le prisme du revenu universel, on se rend compte qu'on invente véritablement une autre façon de faire, une autre société, une autre façon de consommer, une autre façon de travailler, et que, sans parler de décroissance, on peut garder la même qualité de vie, mais en faisant beaucoup moins souffrir la planète, en exploitant beaucoup moins les ressources naturelles. Donc en ce sens, le revenu universel vraiment est écologiste.
Oui, parce que de toute façon, le revenu universel permettrait aussi à chacun de ne pas forcément chercher le prix le plus bas, notamment en alimentation, quitte à faire des trajets en avion qui polluent plus que... Enfin, de privilégier les circuits courts. Tout ça, ça serait beaucoup plus serein avec un revenu universel. Il y a beaucoup de gens. C'est une idée qui monte quand même. Je ne sais pas en quelle année vous avez écrit le livre.
Ça fait quelques années maintenant. C'était bien avant les dernières élections présidentielles.
C'est Benoît Hamon, vraiment...
On en a parlé un petit peu. Donc c'était une réflexion que j'avais amorcée bien longtemps avant.
Et ce que vous dites beaucoup aussi dans le livre, c'est que ce qui va accompagner tout ça, c'est que tout va se robotiser de plus en plus. Il y a même des innovations aussi technologiques, numériques, informatiques qui vont permettre, qui vont nous retirer le travail, tout simplement. Voilà. Et qu'il faut apporter une réponse à ça.
Alors c'est vrai que j'ai un grand chapitre de mon livre qui est dédié aux évolutions technologiques. Donc on parle des nanotechnologies, des drones, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire aujourd'hui par les drones, qui vont remplacer beaucoup de moyens de livraison. Le big data, l'informatique quantique, le phénomène libre en informatique est important, parce qu'il commence à trouver une ouverture aussi dans le monde physique.
C'est quoi, c'est toutes les open source, tout
ça? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui. Mais on trouve en open source aussi aujourd'hui des machines à construire, dont les plans sont donnés au open source. Les imprimantes 3D, c'est aussi une révolution, parce que face à la production de masse, on va avoir une production à l'unité qui sera pas forcément très très chère, donc c'est vraiment une révolution. La robotique, la médecine aussi, il va y avoir des progrès considérables. Les objets connectés, on nous annonce un Internet avec des milliers d'adresses IP au mètre carré, avec l'IP6 dans quelques années ou dizaines d'années. Donc les objets connectés vont vraiment bouleverser notre vie. Et puis j'espère aussi une meilleure maîtrise de l'énergie, et notamment des batteries avec des meilleures capacités. Je pense que c'est encore quelques années de travail et de recherche pour avoir, par exemple, des véhicules électriques avec une autonomie assez grande. Et en fait, ce que je reproche à travers ça aux politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ont des visions à court terme et ils ne font plus de prospectives. Ils n'ont pas de vision à long terme. Et tout ce que je viens de citer, pour eux, oui, ils en sont conscients. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est vraiment une révolution. Ça va bouleverser nos sociétés, et j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte.
Parce que même continue comme avant. L'informatique quantique, ça va même, ça atteint l'intelligence artificielle. Enfin, c'est quand même quelque chose qui va être très.
Ça va avoir surtout peut-être des applications sur. La recherche fondamentale, pour mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons, sur peut-être la météo, sur le big data aussi, sur la façon dont on peut mettre en cohérence des millions et des millions de données différentes et les amalgamer pour en ressortir des résultats. Et en médecine, ça devrait donner des résultats assez importants.
Tout ça, ça va nous amener vers une libération de l'homme ?
Oui. Oui, et c'est pour ça que je pense que le revenu universel est important, parce que la robotisation, l'informatique va nous délivrer des basses besognes. Et en ce sens, vous citiez tout à l'heure Benoît Hamon qui voulait taxer les robots. Là, je ne suis pas d'accord avec lui, vraiment.
Et ça, Sonia, ça vous fait pas peur ? C'est pas une forme, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est aussi une aliénation.
C'est-à-dire qu'en fait... Là, justement, dans l'archipel, j'en parle, c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier les biens communs et les données numériques, mais aussi les technologies que nous adoptons. Il faut non plus les laisser nous dominer quelque part ou dominer notre esprit, mais reprendre possession justement de ces découvertes pour les mettre au service de la société, au service de l'homme. C'est tout à fait vraiment une approche philosophique différente, et donc il faudrait mettre en place, et je pense que ça viendra, des politiques de bien commun où les citoyens peuvent réfléchir et surtout... parce qu'il faut être informé, finalement, on se rend compte dans cette société de l'information où les choses vont très très vite, que parfois sur ces sujets-là, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Et ce qu'une conférence de citoyens permet de faire, c'est de mettre déjà tout le monde au même niveau de connaissance sur un sujet, et de pouvoir ensuite édicter des choix beaucoup plus conscients, effectivement.
C'est ce que dit François, vous parlez que il faut que ça ne reste pas entre les mains des gens qui en ont conscience, qu'il faut que ça...
Et puis moi, je suis plus mesurée parce que je pense quand même qu'on va aussi vers les low-tech. C'est-à-dire que les technologies, aujourd'hui, on est dans les technologies de la high-tech, etc. On aura certainement une révolution de la robotisation, etc. Mais peut-être pas à ce point, et peut-être pas aussi vite que finalement on nous l'annonce. Et effectivement, les low-tech, par contre, toutes ces technologies qui sont économes en ressources, qui sont simples, qui sont accessibles à tous, je pense que c'est aussi un enjeu écologique que de les développer vers le monde de demain. Quoi.
François, vous en pensez quoi ?
Oui, je suis d'accord avec elle, hein, mais on peut faire les deux, je pense. Hein, la technologie évoluant, on peut...
On ne doit pas le voir comme un danger.
Voilà, tout à fait. Oui, hein, on peut avoir des machines qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui, en même temps, nous permettent de nous affranchir du travail. Hein, il y a quand même des sociétés qui travaillent en ce moment sur la robotisation de l'agriculture, mais vraiment poussée, hein, c'est-à-dire que au lieu de mettre des insecticides, on va avoir des robots qui vont aller parcourir les travées des champs et des maraîchers et qui vont désherber manuellement. C'est quand même, d'un point de vue écologique, nous permettre de consommer des produits de meilleure qualité et puis en même temps nous affranchir d'un travail qui est long et fastidieux.
Là, je ne serais pas tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, là, on est dans une agriculture industrielle, alors qui doit garder certainement peut-être une place, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit aussi poindre une agriculture à taille plus humaine, avec des projets portés par des gens qui ont une ambition, finalement, dans leur environnement, d'apporter quelque chose du bien-être, de la bonne nourriture, etc., qui ont vraiment un projet de vie, une philosophie derrière tout ça. Très... Et je pense que... Je ne sais pas s'il y aura un modèle qui prendra la suprématie sur l'autre, mais une chose est sûre, c'est qu'on voit ressurgir aussi cette approche-là du travail de la terre, etc. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle.
Bah, le débat est ouvert, on le continuera hors antenne. On va se quitter sur cette ouverture de débat. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous pour l'aéropage. Un mot sur votre actualité peut-être, François, en ce moment ?
Eh bien, on pourra me retrouver le 17, 18 et 19 mai sur la Comédie du Livre.
Super.
Et donc, je prépare des conférences là prochainement, et donc j'annoncerai bientôt les dates
sur votre page Facebook.
Voilà, sur la page Facebook, l'archipel des transitions, donc, on tombe directement sur cette page.
Super. Je rappelle qu'aussi les ouvrages de François sont disponibles à la librairie Tapuscrit, 7 rue Raoult, à Montpellier. Au revoir.